Les matins de France Culture, Quentin Lafay.
Et c'est une première, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné mardi pour la première fois donc un État pour son inaction face au changement climatique. Cet État, la Suisse, a manqué selon la Cour à son obligation de protection de ses ressortissants contre les effets du réchauffement de la planète. Alors ce matin, on va tenter de comprendre cette décision, mais au-delà, le rôle que peut jouer la justice, celle des États comme la justice internationale, pour relever le défi climatique. Et pour en parler, je reçois deux invités. Arnaud Gossemans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et à vos côtés, Marie Bellan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de l'environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat. Et pour commencer, Arnaud Gossemans, est-ce que pour vous la décision qui a été prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme est une décision historique?
Elle est fondamentale, d'abord parce que c'est une première. C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme jette un pont entre les droits de l'homme, la Convention européenne de 1950 sur les droits de l'homme et la question du changement climatique qui est aussi fondamentale pour nos sociétés et notre avenir. Elle est également fondamentale parce qu'elle a été rendue en grande chambre par la totalité des 17 juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces juges ont dégagé un droit de tous les individus à une protection effective par les États contre les effets néfastes du changement climatique. C'est une extension d'un droit de l'homme. À l'article 8 de la Convention, il est écrit que nous avons tous un droit à une vie privée et vie familiale normale. Donc ce nouveau droit de l'homme, désormais chacun en dispose dans son patrimoine, chacun pourrait même l'opposer à l'État, il faudra respecter des conditions, on y reviendra. Et les États ont une obligation positive de la respecter. Là, c'est tombé sur la Suisse, si vous me permettez l'expression, mais de manière générale, ce sont tous les États qui aujourd'hui doivent veiller au respect de cette obligation. Donc le mot historique, je ne l'aime pas trop, il est un peu galvaudé, dès qu'il y a une décision importante, on dit qu'elle est historique. En tout cas, là, c'est vraiment une première et c'est fondamental.
Elle est pour vous fondamentale également, Marie Bellan, cette décision. C'est vrai qu'on s'étonne dans le fond, a priori, que la Cour européenne des droits de l'homme s'occupe de climat.
Non, ça, il y a quand même des raisons qu'elle s'occupe de ce genre de choses. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder la réaction des autorités helvétiques ou même des partis. Quand on voit que le parti de l'UDC, donc l'Union démocrate du centre, qui est le principal parti helvétique, dit que la décision est scandaleuse, inacceptable et qu'il faut que la Suisse quitte le Conseil de l'Europe, on comprend que c'est du sérieux, quoi. C'est pas juste symbolique. On se dit, c'est pas très grave. La CEDH, elle a dit ça, mais on s'en fiche un peu. Non, je rejoins Arnaud Gossemans. C'est une décision historique, je sais pas. Mais en tout cas, qui a beaucoup d'importance, qui va avoir du poids et que les autorités, manifestement, prennent avec beaucoup de sérieux. Et effectivement, elle s'applique là, en l'occurrence, à la Suisse. Mais le Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres. On en parlera peut-être après des autres pays. Mais il va quand même falloir aussi qu'ils regardent cette décision avec beaucoup d'attention. Et j'imagine qu'en France, on l'a lu avec beaucoup d'attention aussi.
Et la décision, effectivement, on l'a dit, concerne la Suisse, mais s'applique à l'ensemble de ces 46 États. Alors, entrons peut-être dans le détail, dans le fond de cette affaire. La Suisse était poursuivie, il faut le rappeler, par l'association Aînés pour la protection du climat. C'est une association qui regroupe 2500 femmes suisses, toutes âgées de plus de 65 ans. Et ces femmes dénonçaient, je cite, des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique. Quels étaient, Arnaud Gossemans, ces manquements concrètement?
Alors la Cour nous donne un petit peu la recette à suivre par les États pour ne pas justement être coupable de ce manquement. La première des choses, c'est qu'elle oppose à ces États, cette Cour, un devoir de cohérence. Les États ne peuvent pas simplement se ratifier ou signer des objectifs sur la scène internationale en signant la Convention de New York de 92, l'accord de Paris de 2015. Ils ont aussi l'obligation de définir les moyens pour y parvenir. Attention, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'elle respecte le principe de séparation des pouvoirs. Le juge n'est pas là pour dicter la règle de droit, pour dicter la loi, notamment la loi suisse. Il constate que la loi suisse est insuffisante, qu'elle ne prévoit rien pour la période post-2024 et que par rapport aux objectifs que s'est assigné cet État, les moyens ne sont pas en face. Et encore plus précisément, ce qu'on appelle le budget carbone. C'est-à-dire que la Suisse, comme n'importe quel État, a cette obligation de quantifier ses émissions de gaz à effet de serre et ensuite de prévoir cette enveloppe maximale que nous ne devons pas dépasser chaque année de manière à respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre en Occident, mais pas suffisamment rapidement pour parvenir à cet objectif de moins 55% entre 90 et 2030 et de neutralité carbone en 2050. Donc voilà, c'est un arrêt qui montre bien, c'est un arrêt très long, très détaillé, très mesuré, où le juge d'un côté dégage un droit de l'homme, de l'autre respecte la marge d'appréciation des élus, la marge d'appréciation nationale des États, mais oppose à ces mêmes élus leurs propres engagements. C'est ça qui est important.
Lorsque vous dites très mesuré, Arnaud Gossemans, vous l'avez dit plusieurs fois lors lorsque nous avons préparé cette émission. Ça signifie que ce n'est pas un arrêt militant, que ce n'est pas un arrêt risqué qu'aurait pris la Cour européenne des droits de l'homme ?
Il y avait trois catégories de plaignants, de requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait effectivement ces dames, ces seniors, comme elles se prénomment elles-mêmes, avec une moyenne d'âge supérieure à 65 ans. Leurs requêtes ont été déclarées irrecevables. Seule l'association elle-même a été déclarée recevable. Et sur les deux autres affaires, toutes les personnes physiques ont été déclarées irrecevables. Ça veut dire que la Cour, non, n'est pas du tout dans une position militante en disant aux associations ou aux militants, venez, formez des recours, précipitez-vous devant les juges. Pas du tout. Elle a été très sévère dans la recevabilité, c'est-à-dire dans l'accueil, simplement dans la possibilité de lire les requêtes. Elle fait déjà un tri. Elle n'a pas tout lu. Et la requête qui lui est apparue la plus conforme à cette notion de victime, celle où l'association apportait le plus d'éléments sur la recevabilité de sa demande, celle-ci a été accueillie, observée et au final accueillie favorablement. De manière très concrète, cette association doit recevoir un chèque de 80 000 euros du Trésor public genevois, mais c'est évidemment pas l'essentiel.
Ce qui est frappant, Marie Bélan, également dans cet arrêt de la Cour, c'est qu'elle se fonde sur le droit à la vie pour argumenter, pour avancer sa décision. Dans le fond, ce n'est pas une décision qui se fonde sur un droit, sur un corpus juridique lié à des enjeux climatiques. On fait appel à un corpus plus traditionnel. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Oui, c'est vrai que droit à la vie, une vie privée familiale normale, on se dirait, mais quel rapport avec le climat ? C'est ça justement que je trouve assez innovant, c'est qu'on considère que un environnement sain, un environnement où on essaie de limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai que c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est très concret comme décision. Il parle de budget carbone, il parle d'émissions. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de vaporeux où on dirait, ben voilà, vous n'avez pas respecté vos engagements. Non, c'est vraiment très concret et c'est ça que les États doivent regarder avec attention. Donc oui, c'est assez innovant vu de cette perspective-là. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, et nous, les médias, on s'est beaucoup intéressés au départ à une des décisions qui a finalement été rejetée, donc celle des jeunes portugais, parce que je pense qu'on s'est laissé un peu emporter par le côté, ah, ce sont des jeunes, il y avait les marches pour le climat.
Rappeler peut-être l'historique de cette affaire.
C'est donc plusieurs jeunes, alors dont les plus jeunes, je crois, donc 11 ou 12 ans, enfin à l'époque où ils avaient saisi la CEDH, donc parce que l'affaire remonte quand même il y a quelques années. D'ailleurs, celle des Suisses, ça remonte à 2016, hein, donc il faut quand même pas être pressé quand on veut avoir une décision de la CEDH. Ben, ça, c'est, je ferme la parenthèse. Donc voilà, ces jeunes portugais qui, un peu sur le même fondement, hein, se disaient victimes d'État, mais ils étaient là pour le coup, ils avaient assigné plusieurs États, hein, 32 États, si je m'en souviens bien. C'est ça justement qui n'a pas été jugé recevable en partie. Mais voilà, nous on était un peu fascinés par ces jeunes parce que ça ressemblait beaucoup aux marches pour le climat qu'il y a eu il y a quelques années. Je ne sais pas si elles auraient autant de succès aujourd'hui, mais enfin en tout cas il y avait voilà
cet aspect. Et c'est les personnes âgées qui ont tenu bien de cause.
Et finalement c'est des vieilles femmes suisses. Bon, c'est un peu moins sexy, mais ce que je trouve intéressant peut-être aussi dans cette décision, peut-être même si c'était involontaire de la part de la CEDH, c'est de dire, ben, finalement, le réchauffement climatique et ses effets, c'est pas que pour le futur, c'est ok, c'est pour les générations futures, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est aussi maintenant, tout de suite, pour les gens qui vivent maintenant, les gens qui vivent en 2023, en 2024, ils sont âgés peut-être, mais peut-être ils en sont victimes aussi dès maintenant, et il faut s'en occuper aujourd'hui, tout de suite.
Arnaud Gosselin, on se demande nécessairement à quel point ce type de décision, et en l'occurrence, la décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse hier, est engagée effective, à quel point elle est contraignante pour les États.
Juste avant de vous répondre, juste appuyer ce que vient de dire Marie Bélan, qui est très important. Le changement climatique, c'est aujourd'hui. Vous avez raison de souligner que ces personnes se prévalent des effets immédiats du changement climatique et pas uniquement ceux pour nos enfants et petits-enfants. Ce sera le cas, malheureusement. Mm-hmm. Mais il est présent, c'est pas quelque chose de futur. Ces arrêts sont contraignants. La Suisse, comme tous les autres États membres du Conseil de l'Europe, se sont engagés à exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors évidemment, ce sont des États qui sont condamnés. Donc les États, vous leur passerez pas les menottes, vous les mettrez pas en prison. Malgré tout, ces États représentés par des gouvernements, devront exécuter ces arrêts. En l'occurrence, comme je le disais, il y a une somme d'argent à verser à cette association. Mais il y a surtout un arrêt à lire et donc probablement une loi suisse à préparer, à voter pour prévoir ce fameux budget carbone dans la législation suisse qui aujourd'hui est pointé du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant insuffisante. Et puis, juste pour être précis, il y a aussi une procédure d'exécution devant le comité des ministres du Conseil de l'Europe si jamais la Suisse ne respectait pas cet arrêt. Mais ce sont des arrêts qui ne s'adressent pas qu'à la Suisse en réalité. Hein. Ils ont une une vocation pédagogique, ce qui veut dire que n'importe quel citoyen aujourd'hui pourrait s'en prévaloir aussi devant une juridiction nationale. Le premier juge des droits de l'homme, c'est le juge national de votre pays. Alors évidemment, il y a des conditions de recevabilité très strictes à respecter, mais aujourd'hui, cette nouveauté quand même, c'est que vous pouvez invoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière climatique. C'est un nouvel enjeu de ce contentieux climatique.
Quand vous dites une vocation pédagogique, c'est aussi lié peut-être à la force de communication de la Cour européenne des droits de l'homme, à sa capacité à sensibiliser, à s'adresser aux opinions publiques.
Je parle sous le contrôle de deux journalistes sur le plateau, mais effectivement, la Cour a communiqué tout au long de la procédure, a publié plusieurs communiqués de presse au moment où la requête était déposée, au moment où la Grande Chambre a été saisie, avant l'audience, elle a prévenu les journalistes qu'elle allait rendre sa décision. La décision a été ensuite diffusée à vos rédactions très rapidement. Il est évident que grâce à ces articles de presse et à cette émission notamment, le débat public peut être nourri par cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et derrière ce débat public, probablement l'espoir des juges que les opinions publiques, lorsqu'elles votent, lorsqu'elles militent, lorsqu'elles s'expriment, lorsqu'elles écrivent, lorsqu'elles enseignent, s'adressent à leurs gouvernants pour faire avancer les choses.
Marie Bélan, au-delà de l'aspect contraignant de cette décision précise, est-ce que vous croyez dans la capacité des décisions de justice sur le plan climatique à transformer, à modifier la politique publique ?
Là, je pense qu'il va falloir que les États, oui, se posent clairement la question, puisqu'on invoque de plus en plus cette justice climatique. Et c'est vrai que ce que je voudrais souligner aussi, c'est la portée internationale. Parce que s'il y a déjà eu des cours nationales qui avaient des décisions qui se rapprochaient un petit peu, on n'en a pas parlé encore, mais la décision de la Cour suprême des Pays-Bas, notamment, qui avait été très commentée à l'époque, qui va dans le même sens, avec tout le respect qu'on doit aux Pays-Bas, ça s'appliquait aux Pays-Bas, qui est un tout petit pays avec pas beaucoup d'habitants. Là, on parle des 46 États qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc la portée est beaucoup plus large. Et effectivement, je pense que les avocats dans leurs requêtes en France ou partout ailleurs dans les pays membres du Conseil de l'Europe vont s'appuyer sur cette décision. Elle va faire jurisprudence, c'est sûr. Et donc du coup, oui, il y a quand même une efficacité un levier qui va être utilisé dans le futur dans les affaires climatiques qui doit faire réfléchir les États sur leur capacité à agir.
Arnaud Gossement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment cela se diffuse cette décision sur les juridictions nationales, sur les tribunaux nationaux ?
Alors d'abord, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux États, et dans ces États, ça s'impose à l'ensemble des pouvoirs et autorités judiciaires de ces États. Donc oui, les juges nationaux doivent se conformer, étudier, faire appliquer cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, en plus, c'est la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est réunie, c'est-à-dire la totalité de ces 17 juges. Ça donne donc une autorité supplémentaire à cet arrêt. Et donc oui, les ONG, mais aussi des entreprises, tous les acteurs qui peuvent subir les conséquences du changement climatique, ça va du citoyen, mais il y a aussi des entreprises dont l'activité économique est impactée par le changement climatique, sous couvert de respecter des conditions de recevabilité, pourront se saisir de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans leurs futures requêtes.
Il faut nous dire d'un mot, puisque vous employez le terme depuis le début de notre échange, ce qu'est cette grande chambre, sa valeur symbolique aussi.
Oui, pardon, alors toutes les juridictions sont, surtout les cours suprêmes, sont divisées en chambres. Il y a des spécialités qui sont affectées à chacune de ces chambres. Et pour les décisions qui sont particulièrement engageantes, particulièrement importantes, on réunit tout le monde. Par exemple, le Conseil d'État va statuer en assemblée, la Cour européenne des droits de l'homme va statuer en grande chambre. Ça donne une force, un poids supplémentaire à la décision qui est rendue.
Et donc c'est un poids important qui a été donné à la décision rendue hier. La Suisse condamnée pour inaction climatique, on parlera évidemment de ce cas, mais on va élargir dans cette seconde partie de notre échange à l'ensemble de la justice climatique, à ce qu'elle peut en matière de transformation des politiques publiques. Avec vous deux, Arnaud Gossement et Marie Bélan, ce sera à partir de 8h20.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin Lafay.
Suite de notre conversation sur la justice climatique avec Arnaud Gossement. Il est avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À ses côtés, Marie Bélan, journaliste aux Échos, spécialiste de l'environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat. Et je voudrais citer Greta Thunberg qui était hier à Strasbourg et qui a commenté la décision de justice de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la Suisse pour inaction climatique. On l'a dit un peu plus tôt dans notre échange, c'est c'est une première mondiale. Greta Thunberg dit « Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas, nous ne devons reculer, nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début. » Fin de citation. Est-ce que, Marie Bélan, cette tendance justement à traîner, pour reprendre les termes de Greta Thunberg, les gouvernements devant les tribunaux, est-ce que c'est une tendance qui se confirme dans le temps ?
Oui, effectivement, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a le fait de se dire que les responsables politiques ne sont pas assez conscients des risques que fait courir le réchauffement climatique, n'agissent pas assez vite, donc on va passer par la justice, et c'est ce que font beaucoup d'associations militantes en France, mais aussi ailleurs, on le voit bien, pour que la justice prenne le relais. Après, d'autres disent aussi, et je pense qu'il faut en tenir compte, que ce genre d'action peut être contre-productif, parce que ça peut être utilisé notamment par les partis populistes, qui vont dénoncer un gouvernement des juges en disant, regardez, c'est pas à la justice de nous dire comment on doit gouverner tel ou tel pays, telle ou telle politique publique. Après, ce que disait Arnaud Gosselin en première partie, que je trouve très juste, c'est que là, notamment la CEDH, puisque c'est d'elle qu'on parle, ne dit pas voilà ce qu'il faut vous faire, c'est vous avez pris des engagements, vous ne les avez pas respectés.
Elle rappelle les engagements et les objectifs.
Exactement. Les engagements, ils ont été dans des campagnes électorales, les gens ont pu voter dessus. Donc en fait, le moment démocratique, il a eu lieu. Ce que fait la justice là, c'est de dire, vous n'avez pas fait ce que vous avez dit. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. On est là pour vous dire, vous vous engagez sur tel ou tel objectif, il faut les respecter, chiffres à l'appui, politique, budget carbone à l'appui, voilà. Donc c'est ça que je trouve important qu'il faut rappeler, c'est que la justice n'est pas là, effectivement, pour déterminer les politiques publiques, mais pour vérifier qu'elles sont bien respectées. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un outil que je trouve intéressant, et il faut arriver à répondre, enfin, en tout cas, c'est le contre-argumentaire vis-à-vis des populistes qui souvent, effectivement, dénoncent le gouvernement des juges.
Un centre de recherche qui s'intéresse justement à ces questions de justice climatique, il s'appelle le Sabine Center, il est logé à l'Université de Columbia aux États-Unis, a répertorié pour septembre 2023 plus de 2500 affaires en cours, dont 1600 aux États-Unis, qui avaient trait à la justice climatique. Est-ce que cette tendance, Arnaud Gosselin, gagne l'Europe ?
Numériquement, non. Oui, il y a un grand nombre de recours, mais il faut faire attention parce que ce sont des recours devant des systèmes judiciaires qui sont très différents, notamment aux États-Unis et en Europe. Il se caractérise par un souci de la part des requérants d'engager la responsabilité des États. Mais attention au malentendu. Lorsque Greta Thunberg dit qu'il y a des citoyens qui veulent traîner leur gouvernement devant les tribunaux, ce n'est, en tout cas en Europe, pas l'office du juge. Il faut bien voir que le temps du juge, le temps de l'urgence climatique et le temps du politique sont trois temps différents. On l'a rappelé tout à l'heure, Marie Bélan l'a dit, ce sont des contentieux qui durent depuis des années, entre 5 et 10 ans en moyenne, pour obtenir une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. De l'autre côté, l'urgence climatique, elle est réelle, elle frappe déjà, et elle produit ses effets déjà depuis plusieurs années. De l'autre, le temps du politique. Concrètement, lorsque vous déposez un recours pour engager la responsabilité de l'État, tel ministre est en place. Lorsque le juge va rendre cette décision, un autre ministre sera en place, et lorsqu'elle sera exécutée, et que peut-être qu'on se plaindra qu'elle a été mal exécutée, encore un autre ministre. Donc il faut bien comprendre que la question de la responsabilité individuelle de nos gouvernants est délicate à appréhender pour le juge. À l'inverse, la responsabilité de l'État comme fiction juridique qui a une permanence, l'État est toujours là, tout comme la commune, la région, le département, ça oui, cette fiction juridique, on peut rechercher sa responsabilité au sens de solidarité nationale. Le juge, par sa décision, lorsqu'il engage la responsabilité d'un État, souhaite exprimer une solidarité nationale qui est due à telle ou telle catégorie de personnes ou à l'ensemble des personnes, au contraire, qui sont exposées plus particulièrement aux conséquences du changement climatique, puisque ce changement climatique ne nous frappe pas tous de la même manière, bien entendu. Une personne âgée, surtout si elle est modeste, sera plus exposée qu'une personne qui aura les moyens de s'adapter aujourd'hui, plus ou moins, on ne peut pas totalement s'adapter, mais on peut plus ou moins facilement s'adapter au changement climatique selon que vous êtes riche ou pauvre, nord ou sud, jeune ou en bonne santé, etc. etc. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a trois temps qui sont à concilier et que le juge, dans un régime de séparation des pouvoirs, ne peut pas personnifier la question.
Mais la fiction juridique que vous décrivez, Arnaud Gosselin, est-ce qu'elle n'est pas elle-même critiquable, associée la responsabilité de l'État au déficit climatique, au problème du climat aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas aussi circonscrire la question, éluder la responsabilité d'autres acteurs? Je pense notamment, évidemment, à la responsabilité des entreprises.
À chaque fois que les États se sont défendus, à la fois devant le Conseil d'État et là devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, je vous conseille la lecture. Alors, c'est 250 pages, mais il y a de nombreux développements dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur la part de responsabilité de l'État. On parle bien d'une part de responsabilité. Il est bien évident que, d'abord, les États entre eux ont des responsabilités communes mais différenciées. Il y a des États qui ont une responsabilité historique plus importante que d'autres. Mais j'ai envie de dire que même parmi les autres acteurs, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les citoyens, moi, nous avons tous une responsabilité commune mais différenciée. Et il est évident qu'un simple citoyen n'a pas la même responsabilité que le directeur d'une multinationale ou un chef d'État. Mais il en a une. Il est évident que si vous faites n'importe quoi à votre échelle individuelle, vous contribuez au changement climatique. Et dans cette complexité, d'abord le changement climatique est complexe, la question des responsabilités est complexe, le juge intervient dans cette complexité, s'en empare et parle bien d'une part de responsabilité de l'État. Il est évident que si demain des gens disent « Ah, vous voyez, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que c'est l'État le responsable, les autres s'en dédouanent », on aura tout perdu. L'État a une part de responsabilité, les autres aussi.
Marie Bellon, cette question de la justice climatique, est-ce qu'elle pose aussi la question de la formation des militants, des militants, des façons même de militer? Est-ce que les militants, dans le fond, se sont formés à ces questions au cours des dernières années, à ces questions juridiques?
Oui, j'imagine, et de plus en plus, parce que c'est vrai que le recours au juge, il devient quand même de plus en plus fréquent, et on le voit, et c'est d'ailleurs une réaction du politique, en contre-réaction justement à ces recours de plus en plus nombreux par des associations militantes. On voit que dans pas mal de législations récemment, on essaie justement de passer outre ce recours. Je vais prendre deux exemples. Dans la loi sur les énergies renouvelables qui a été votée l'an passé, on a eu justement des dispositions qui visaient à limiter les recours devant la justice pour ne pas trop freiner les projets. Alors là, en l'occurrence, c'était sur les éoliennes. Sur le projet de loi agricole dont on a parlé récemment et qui est passé en Conseil des ministres il y a quelques jours à peine, de même, il y a aussi des voies d'urgence qui ont été mises en place pour raccourcir les délais, parce que souvent, maintenant, cette voie juridique est souvent vécue par certains acteurs comme l'empêcheur de tourner en rond. En gros, on a un projet d'éolienne, on veut le faire, on veut aller vite. On nous dit qu'il y a urgence climatique. Alors pourquoi on peut pas aller, pourquoi il faut 5 ans pour avoir une autorisation de faire une éolienne? Pourquoi? Alors, sur l'agriculture, c'est un autre sujet, parce que là, c'est pas pour des installations pro-environnementales en général. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tension là, qui se fait très forte entre le temps de la justice, le temps de l'urgence climatique, et est-ce que ce droit de recours est toujours bien utilisé? Est-ce que parfois, il n'y a pas de l'obstruction, il faut aussi se poser la question, je pense.
Mais alors justement, est-ce que ce temps de la justice permet d'articuler le temps climatique, cette nécessité de l'urgence, Arnaud Gosseman?
Pas toujours.
On voit le temps que prennent les décisions. On a parlé de la décision de la CEDH, ça avait pris 6, 7, 8 ans pour obtenir une décision contraignante.
C'est vrai. La décision de justice a une vocation absolument irremplaçable, notamment pour que le droit ait une effectivité, qu'il ait sa force. Mais oui, pas toujours, effectivement. Il arrive que des juges parfois statuent alors que le chantier est terminé, que les travaux sont faits, que des espèces protégées ont été détruites. Il y a eu le cas d'ailleurs cette semaine encore, un tribunal administratif, celui d'Amiens, qui a jugé illégal un projet autoroutier, mais qui a déjà été intégralement réalisé. Donc le juge parfois n'a pas les moyens d'intervenir suffisamment rapidement. Et parfois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est important qu'il ne puisse pas intervenir trop rapidement. N'oublions pas que le procès, c'est aussi au pénal la présomption d'innocence, la capacité des acteurs à se défendre, à prendre un avocat s'ils le souhaitent, à produire des écritures et des preuves. Et ça, il faut du temps pour qu'une vérité judiciaire se dégage. Elle n'est jamais immédiate. On est face à des sujets extrêmement complexes que parfois on simplifie lorsqu'on en parle. Mais lorsqu'on est un acteur du procès, comme c'est mon cas, et qu'on est dans les dossiers, on voit que tous les dossiers sont extrêmement compliqués et qu'il faut du temps aussi pour que, d'abord, les esprits s'apaisent, que les tensions laissent place à la réflexion et à la délibération et que le juge puisse statuer. Une justice rendue par une seule personne à toute vitesse entre trois dossiers, c'est pas une bonne justice non plus. Donc on pourra jamais attendre du juge qu'il intervienne sur tous les incendies et qu'il les éteigne sitôt parti. Ça sera jamais possible. À l'inverse, le recours en justice est l'un des leviers évidemment extrêmement importants pour vérifier notamment que les entreprises ou les États respectent leurs engagements. Et un certain nombre de décisions qui ont pu être rendues ont contribué à ça. Alors, non seulement la décision est intéressante, mais si vous regardez bien les actualités, le recours lui-même est intéressant. Dans une affaire comme l'affaire du siècle, par exemple, la médiatisation, la pétition qui a accompagné le dépôt du recours est presque aussi intéressante que la décision rendue par le juge.
On rappelle d'un mot juste ce qu'est l'affaire du siècle, hein, quatre organisations d'intérêt général avaient assigné l'État français en justice devant le tribunal administratif de Paris pour inaction face au changement climatique en vue de reconnaître que les juges l'obligation de l'État d'agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Je vous recède la parole.
Oui, pardon, effectivement. Le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe, le tribunal administratif de Paris, alors avec des subtilités, mais ont tous les deux admis le fait que l'État avait commis une faute dans un cas ou doit prendre des mesures dans l'autre cas pour effectivement réduire, respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette décision est importante, elle nourrit le débat public, elle nourrit l'actualité médiatique, elle permet de parler de changement climatique, donc le recours lui-même a une importance. Évidemment que la décision du juge derrière est importante également, mais il ne faudrait pas déduire des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dont nous parlons aujourd'hui que la justice est devenue l'alpha et l'oméga de toute la lutte contre le changement climatique et qu'on pourrait s'en remettre au juge. Nous sommes quand même dans un régime de séparation des pouvoirs. Le juge, il a un office circonscrit. Et c'est heureux parce que ça permet effectivement, comme Marie Bellon le soulignait à juste titre, de contrer cette critique du gouvernement des juges qui en réalité n'existe pas.
Le juge ne définit pas la politique publique, il rappelle les objectifs, les engagements, les ambitions, on le redit ici. Dans l'affaire du siècle, néanmoins, Marie Bellon, est-ce que des effets concrets, s'ils sont, s'il est possible même de les mesurer, de les sentir, est-ce qu'il y a eu voilà, une portée concrète de cette affaire du siècle, allez, ne serait-ce que dans les politiques publiques françaises en matière climatique?
Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien direct, mais en tout cas, ça a pu mettre quand même un bon petit coup de pression sur l'État, parce que là, ce qui était reproché, c'était donc de ne pas avoir rempli ses objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Or, si on prend les derniers chiffres, par exemple, qui ont été publiés ben là, il y a tout juste quelques semaines, en mars, des émissions de gaz à effet de serre pour la France en 2023, on était quand même à moins 4,8 par rapport à 2022. C'est un chiffre qui n'avait été jamais atteint, qui était historique, qui a été qualifié de record par le ministère de la Transition écologique. Alors, à tort, je pense, parce que les moins 5 ans, c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous les ans maintenant. Donc, du coup, si c'est un record, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, ça devrait devenir le business as usual. Donc, c'est pas si exceptionnel. Enfin, il faudrait pas que ça soit justement exceptionnel. Mais voilà, tout ça pour dire que finalement la France, elle a plutôt de bons chiffres récemment et il faut qu'on s'en félicite, hein. C'est plutôt bien, ça prouve qu'il y a eu un vrai travail et d'ailleurs, je pense qu'il faut saluer aussi tout le travail qui a été fait par le secrétariat général à la planification écologique qui a fait quelque chose de à la fois très minutieux, très 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 détaillé, très robuste aussi. Donc voilà, il y a une prise de conscience quand même nouvelle. Après, beaucoup plus récemment, je trouve là que le moment actuel, il y a un léger flottement. C'est pour ça que les chiffres sont très bons pour 2023. On ne sait pas s'ils le seront autant dans le futur. Je vais prendre juste quelques exemples, mais c'est vrai que on sent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qu'il y a quand même plus d'hésitation, notamment sur justement plusieurs plans qui étaient attendus. Là, je prends trois exemples. On attendait le plan d'adaptation au changement climatique dont parlait justement votre chroniqueuse Heidi Sévestre tout à l'heure, qui est censé préparer la France à un réchauffement de plus 4 degrés à la fin du siècle. Bon, ben, ce plan, il est attendu depuis la fin de l'année dernière, on ne l'a toujours pas vu. On attendait aussi ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui là, pour le coup, est très liée justement à la façon dont on va pouvoir faire baisser les émissions. Ben, cette SNBC, comme disent les spécialistes, on n'en a toujours pas vu la couleur non plus. On nous l'annonce depuis. Elle doit paraître chaque semaine, là, mais bon, finalement, on ne l'a jamais vue. Alors, peut-être que ce sera qu'à la fin de l'année. Et puis, un troisième point, j'en finis là, sur la loi de souveraineté énergétique de la France, qui était programmée en Conseil des ministres en janvier, puis qui a disparu du jour au lendemain, qui était censée, là aussi, donner la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Donc, on voit que sur tous ces points de planification, qui sont justement des engagements qui vont être concrets et sur lesquels l'État va devoir rendre des comptes, si on reprend les expressions qui sont utilisées par la CEDH et les obligations que ça impose à l'État, bah sur tous ces points-là, il y a comme une sorte de flottement, d'hésitation, parce qu'on sait que ces engagements, aujourd'hui, ce n'est pas des engagements en l'air. Il va falloir vraiment les remplir.
Arnaud Gosselin, on parle depuis le début de notre échange, depuis le début de notre conversation, de ce que la justice peut faire, j'allais dire, sur l'action même des États. Qu'est-ce qu'elle peut faire, en revanche, sur l'action des entreprises? Est-ce qu'il y a des cas, par le passé, qui ont montré des avis contraignants, qui ont permis d'édicter des avis contraignants aux entreprises en matière climatique?
Oui, bien entendu. Une entreprise, alors d'abord une entreprise, vous pouvez bouger sa trajectoire, bouger sa politique de manière positive. Hein. Il ne faut pas non plus alimenter la critique de l'écologie dite punitive, hein, qui est un fantasme, mais qui peut faire peur aussi. Il y a des manières positives d'encourager les entreprises à avancer. Mais effectivement, dans certains cas, nous avons besoin du juge aussi pour leur rappeler un certain nombre soit d'engagements, soit de règles de droit. Alors les engagements, par exemple, oui, il y a des entreprises qui ont été rappelé à l'ordre, je pense pas à la Cour suprême des Pays-Bas, dans l'affaire Shell, cette entreprise pétrolière, effectivement, s'est vue opposer toutes ces déclarations très ambitieuses à l'époque sur le changement climatique. Le juge avait pris soin dans sa décision de lister toutes les déclarations des dirigeants de cette compagnie pétrolière très favorables au changement climatique, et le juge a refusé ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire se prononcer en faveur de l'environnement et faire tout le contraire une fois qu'on doit prendre
la communication verte.
C'est ça. Alors, communication verte peut être positive, mais quand elle repose sur des mensonges et sur une absence d'actes, non. Il y a d'autres décisions de ce type-là. Et puis, il y a aussi toute une législation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui au niveau européen pour lutter contre le greenwashing. J'y crois énormément. Ce qu'on appelle les allégations environnementales. Là, dans la Cour européenne des droits de l'homme, elle oppose un devoir de cohérence aux États. Là, dans la directive qui vient d'être adoptée par l'Europe le 28 février dernier, c'est aussi un devoir de cohérence qui s'impose aux entreprises, d'abord vis-à-vis des consommateurs, mais pas que. Vous voyez aujourd'hui des notions d'allégations environnementales interdites, de devoirs de vigilance qui sont en train de naître dans la législation et qui vont imposer aux entreprises de ne pas communiquer pour communiquer, mais de rendre des comptes, pas simplement à leurs salariés, pas simplement à leurs actionnaires, mais à la société tout entière. C'est un mouvement très fort qui est alimenté par des recours en justice, mais pas que, qui est aussi alimenté par une soif du consommateur d'y voir plus clair. Vous avez aussi des applis qui vous permettent d'en savoir plus sur les produits que vous allez consommer. Ça, c'est un mouvement aujourd'hui très fort auquel je crois beaucoup, qui va imposer une transparence aux entreprises. Celles qui ne jouent pas le jeu courront un risque de réputation, de mise en cause de leur notoriété, notamment par vous, journalistes, extrêmement fort.
Une notion revient particulièrement régulièrement, Arnaud Gossemont, quand il s'agit d'évoquer, de parler de justice climatique. C'est la notion de génération future, de droit des générations futures. Est-ce qu'elle se marie, là aussi, avec l'urgence climatique? On sait que le défi climatique, il doit être relevé aujourd'hui. Parler des générations futures, de la responsabilité que nous avons à leur égard. Comment cette articulation-là se pense-t-elle en matière juridique?
Aujourd'hui, les juges n'acceptent pas qu'une personne se présente au nom des générations futures, au nom des jeunes ou des personnes à naître. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. À l'inverse, le Conseil d'État, le juge administratif français, dans une affaire célèbre, c'est l'affaire de Stocamine, hein, c'est-à-dire c'est un sujet assez dramatique avec un débat depuis des années sur la nécessité d'enfouir des déchets chimiques dangereux en Alsace. Un certain nombre de personnes refusent cet enfouissement au motif qu'on risque d'en perdre la mémoire. Dans 2000 ans, qui saura où sont ces déchets chimiques, comment se comportent-ils, quelle est leur dangerosité, etc., etc. Et le juge administratif, dans cette affaire-là, a imposé à ceux qui rédigent les études d'impact, à ceux qui se posent la question des effets sur l'environnement et la santé humaine de leurs activités, par exemple de stockage de déchets, leur impose de penser aux générations futures, c'est-à-dire de penser à la mémoire de ce qu'ils sont en train de faire, à l'information, pas simplement des êtres vivants aujourd'hui, mais de ceux qui sont à venir. Donc oui, cette notion de génération future, qui est inscrite dans notre Constitution, dans la Charte de l'environnement, est extrêmement importante, produit déjà des effets devant le juge, mais attention, il ne s'agit pas de faire parler ceux qui ne sont pas encore parmi nous.
Marie Bellan, sur cette notion du droit des générations futures, est-ce qu'elle vous paraît là aussi pertinente?
Oui, et je trouve ça intéressant. Alors, c'est dommage que la CEDH n'ait pas pu se prononcer sur le fond, sur la décision sur les jeunes portugais dont on parlait tout à l'heure, parce que eux, ils invoquaient justement dans leur argumentation la non-discrimination vis-à-vis des générations futures. Et bon, ils n'ont pas eu l'occasion de dire ce qu'ils en pensaient, puisque ça a été rejeté sur la forme. Non. Mais je trouve ça intéressant parce que c'était une des premières fois, si je ne m'abuse, où on invoquait ce principe de non-discrimination. Donc ça prouve que c'est quand même un point intéressant. Et c'est vrai que ce dont vous parliez sur la reconnaissance du droit des générations futures à un environnement sain, on pourrait l'invoquer. Alors je fais un peu de la politique fiction mais si notamment l'État français voulait réouvrir des mines de charbon, je pense pas que ce soit le cas parce qu'on essaie plutôt de les fermer en ce moment, mais on pourrait invoquer cet argument en disant une mine de charbon, on peut pas, pour le futur ça va être catastrophique, mais il pourrait y avoir aussi des attaques sur ce motif-là, sur par exemple, l'utilisation des pesticides, sur les polluants éternels, par exemple. Alors, puisque justement, comme leur nom l'indique, ils se dégradent pas, ils sont là pour des années et des années. Donc, on est là, bien sûr, une question de génération future. Donc, je pense que c'est très puissant, effectivement, comme argumentation, et que ça va être utilisé, vraisemblablement, avec beaucoup d'insistance.
Arnaud Gosselin, on parle beaucoup dans cet échange, évidemment, de l'arrêt qui a été rendu, de la décision qui a été rendue hier par la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que l'espace privilégié, néanmoins, de la justice climatique demeure les juridictions nationales?
Oui, bien entendu. C'est important de rappeler le caractère subsidiaire de ces grandes juridictions internationales. Le juge de droit commun, le premier juge pour la protection de l'environnement, pour la protection des droits de l'homme, ça reste le juge au coin de votre rue, c'est-à-dire le juge national. Et ça, la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle aussi. Elle le rappelle notamment en écartant la plainte qui avait été introduite par ces 6 jeunes Portugais. Vous en avez parlé à l'instant, Marie Bélan. Effectivement, ils ne s'étaient pas adressés d'abord au juge national. Ce qu'ils auraient dû faire, leur répond la Cour européenne des droits de l'homme, ils auraient d'abord dû s'adresser au juge national. Il est important que celui-ci ne soit pas dessaisi de sa compétence. Les juridictions internationales interviennent de manière rare, malgré tout, par rapport au flot de ces recours et ces décisions du quotidien.
Marie Bélan, un mot quand même sur l'affaire Grande Synthe qui a occupé largement les colonnes de votre journal, les colonnes même de tous les titres de presse. Peut-être nous rappeler en quelques mots son historique et ce qu'on y attend aujourd'hui.
Alors, c'est cette commune donc, du nord de la France qui est menacée d'érosion côtière. Et quand on parle de d'adaptation au changement climatique, là c'est vraiment un sujet qui est en plein dans le cœur de ce dont on parlait à l'instant. Cette affaire n'est pas finie, mais c'est vrai que la commune qui est menacée donc d'érosion côtière qui est aggravée par le réchauffement climatique, se dit victime justement de l'inaction de l'État qui n'est pas capable de stopper ce phénomène. Alors bon, là on est encore en plein dedans, mais ça Arnaud Gosselin pourrait nous le dire peut-être mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est aussi une affaire très symptomatique de cette place de la justice climatique et de son interaction avec l'action publique, en quelque sorte.
Arnaud Gosselin, en quelques mots, justement sur cette affaire Grande Synthe, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui et sur son actualité ?
Alors effectivement, l'affaire est toujours en cours. L'ancien maire de Grande Synthe avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Sa requête a été déclarée irrecevable, mais même si elle a été déclarée irrecevable, la décision qui a été rendue reste extrêmement importante puisqu'elle rappelle quelles sont les conditions à remplir, et ces conditions à l'avenir pourraient être remplies par une autre personne qui effectivement se préfaudrait de sa résidence dans une commune, vous l'avez dit, menacée par le recul du trait de côte, l'érosion côtière, des phénomènes climatiques violents. Et donc effectivement, on peut imaginer que là, il y a un jalon qui a été posé, même si cette plainte a été déclarée irrecevable.
Merci à tous les deux, Arnaud Gosselin. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Marie Bélan, journaliste aux Échos, spécialiste de l'environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat.